VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, il est 17h30 temps universel, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 14 septembre 2017. Morgane Guiriec en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, Togo, l'opposition a claqué la porte de l'Assemblée nationale ce matin. Élection au Tchad, la France demande la publication d'un calendrier pour les législatives. Réaction aujourd'hui de la majorité présidentielle. Coup de projecteur également sur la rentrée scolaire au Bénin. Et puis, le point sur l'ouragan Irma. Le couple Trump s'est rendu en Floride. Retrouvez Nicolas Pinault à la fin de ce journal pour les sports et Dilidico pour la Minute Éco. Mais d'abord, le journal. L'opposition togolaise a claqué la porte de l'Assemblée nationale ce matin, regrettant que le projet de loi sur la réforme constitutionnelle ne soit pas débattu. Elle a donc annulé son meeting d'information prévu demain. Nathalie Barge.
Nous ne sommes ni de cœur ni d'esprit à discuter d'autre chose que des réformes constitutionnelles, a déclaré Patrick Lawson, vice-président de l'ANC, après que les députés de l'opposition aient quitté la salle. S'il nous rappelle pour l'ouverture d'une nouvelle session extraordinaire pour discuter des réformes, nous reviendrons tous, a-t-il ajouté. La coalition de l'opposition demande une limitation des mandats présidentiels, un scrutin à deux tours et le départ du président Fornia Singbe. Le gouvernement avait annoncé qu'il soumettrait un projet de loi au Parlement, mais l'Assemblée a soutenu qu'il devait passer par une commission spécialisée avant sa consultation par les députés. Évoquant un cas de force majeure, le président de l'Assemblée nationale togolaise, Dama Dramani, avait assuré mercredi que le projet de réforme serait examiné dès vendredi.
Un policier a été tué et 32 partisans pro-Biafra arrêtés suite à des manifestations violentes dans l'état de Rivers, dans le sud du Nigeria. D'autres états voisins sont touchés par les violences, nous dit Ekiabadou.
Ce jeudi, un commissariat de police a été incendié à Aba, faisant un blessé dans le quartier d'Ariara. Selon un responsable local d'un mouvement pro-Biafra, l'armée et la police recherchent les pro-Biafra maison par maison, car on leur incombe toutes les attaques. Dans le quartier d'Oyigbo à Port-Harcourt, un sergent de police a été tué hier par des membres présumés de l'IPOB, le mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra. Ces derniers se seraient emparés de son arme. L'IPOB, qui réclame l'indépendance du Biafra, affirme que 5 de ses partisans avaient été tués dans ces heurts, ce que l'armée a réfuté. Un fourgon de police a été brûlé lors de l'incident qui a également blessé plusieurs policiers. Une autre attaque s'était produite mardi à l'école de police de Port-Harcourt, faisant plusieurs blessés dans les rangs de la police. Au total, 32 suspects ont été placés en détention provisoire ces deux derniers jours et seront présentés devant la justice. Mardi, le gouverneur de l'état d'Abia a imposé un couvre-feu nocturne de 3 jours après la montée des tensions de ces derniers jours.
Mali, la force française Barkhane a tué 2 djihadistes présumés lors d'un accrochage vendredi au sud-ouest de Gao. C'est ce qu'annonce l'état-major des armées françaises. Le recoupement de différents indices a permis l'identification de campements de groupes armés terroristes à Ndaki, près de la frontière avec le Burkina Faso, explique l'armée. Une opération a été déclenchée le 8 septembre au lever du jour avec des hélicoptères d'attaque Tigre, des groupes de commandos montagne et parachutistes héliportés, appuyés par des Mirage 2000 et des drones Reaper du renseignement, ajouté le porte-parole de l'état-major. Le pape ne se rendra pas à Kinshasa avant la tenue d'élections. C'est ce que rapporte le nonce apostolique en République démocratique du Congo, Monseigneur Luis Mariano Montemayor, au retour d'une visite de 5 jours dans la région du Kasaï. Il dénonce un état prédateur vis-à-vis de son peuple. Il explique que le pape est attristé par la distance entre la classe politique et son peuple. En refusant de quitter Kinshasa, le Vatican espère éviter tout risque de manipulation. Le Tchad, dans le collimateur d'Amnesty International, l'ONG dénonce une augmentation de la répression envers la société civile au cours des dernières années. Les défenseurs des droits humains, les membres de mouvements citoyens, les syndicalistes et les journalistes qui critiquent le régime sont de plus en plus menacés, affirme Amnesty International. L'organisation appelle donc les autorités tchadiennes à changer ses pratiques en modifiant notamment les lois restrictives et en libérant les prisonniers d'opinion. Et c'est à peu près le même son de cloche au Gabon. Le Parlement européen appelle à cesser de harceler, intimider et persécuter les opposants au président Ali Bongo. Les élus européens estiment notamment inacceptable que l'opposant Jean Ping ait été récemment empêché temporairement de quitter le pays. Strasbourg appelle Libreville à libérer immédiatement toutes les personnes encore détenues illégalement. Les autorités envisagent une mesure dans ce sens et nous y reviendrons en partie magazine. Victoire pour les femmes en Tunisie. Les musulmanes pourront désormais se marier dans leur pays avec des non-musulmans. Et c'est la consécration du droit des femmes à choisir leur conjoint d'après la présidence. Tunisie toujours, la société civile et l'opposition expriment leur inquiétude pour la transition démocratique. En cause, l'adoption d'une loi controversée d'Amnesty de fonctionnaires impliqués dans la corruption sous la dictature. Nouveau coup de théâtre en Afrique du Sud. Les avocats de Jacob Zuma et le parquet ne vont pas demander l'abandon de poursuites pour corruption engagées contre le président. Et puis élection générale au Zimbabwe. Le président Robert Mugabe donne un coup d'envoi aux opérations d'inscription sur les listes électorales en vue du scrutin de 2018. Un processus aussitôt dénoncé comme douteux et mal préparé par l'opposition.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, de nouvelles menaces nord-coréennes après l'adoption à l'ONU d'une huitième série de sanctions. L'organisation Corée de la paix en Asie-Pacifique demande que les États-Unis soient battus à mort pour avoir initié cette mesure. On fait le point avec Yacouba Ouedraogo.
La résolution du Conseil de sécurité de l'ONU prévoit un embargo sur les exportations de gaz vers la Corée du Nord, une limitation des exportations de pétrole et de produits raffinés, ainsi que l'interdiction des exportations nord-coréennes de textiles. L'organisation nord-coréenne Corée de la paix en Asie-Pacifique a dénoncé, je cite, « une résolution de sanctions odieuses ». Elle a affirmé que les appels se multiplient au Nord en faveur de représailles contre les États-Unis et leurs alliés. L'organisation a ajouté qu'il est temps de neutraliser les agresseurs impérialistes, condamnant le continent américain aux cendres et à l'obscurité, dit-elle. À l'égard du Japon, allié des États-Unis, l'organisation a martelé que ce pays devait être, je cite, « coulé dans la mer ». En visite en Inde, le premier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré que Tokyo et Delhi vont opposer une réponse forte à la Corée du Nord. Il a ajouté que la communauté internationale doit mettre la résolution du Conseil de sécurité en œuvre et contraindre la Corée du Nord à changer de politique.
Donald Trump séjourne aujourd'hui en Floride au chevet des victimes de la tempête Irma dans un Sunshine State endeuillé. Hier, on a appris la mort de 8 pensionnaires d'une maison de retraite, vraisemblablement en raison de l'absence d'électricité. Les précisions de John Lyndon.
Au programme du président américain, de son épouse Melania et du vice-président Mike Pence, la Maison-Blanche a annoncé une réunion à Fort Myers sur les secours mis en œuvre, puis une visite à Naples à la rencontre des victimes. Donald Trump avait fait savoir dès dimanche qu'il se rendrait dans l'État sinistré, comme il avait fait au Texas, confronté fin août à des inondations historiques provoquées par l'ouragan Harvey. En Floride, les autorités estiment que la mort de 8 pensionnaires d'une maison de retraite à Hollywood, âgés de 70 à 99 ans, semble liée à l'absence d'électricité pendant la tempête et donc de climatisation. La mort de ces personnes âgées porte à 20 le nombre de décès liés au passage d'Irma en Floride. Plus de 4 millions de foyers et entreprises étaient toujours sans électricité mercredi dans cet état où vit un grand nombre de retraités.
USA toujours, le président Donald Trump annonce un accord imminent avec l'opposition démocrate du Congrès pour régulariser des centaines de milliers de jeunes sans-papiers. Il court-circuite ainsi sa majorité républicaine et va probablement à l'encontre des désirs de ses partisans conservateurs. L'Irak vient de vivre l'attentat le plus sanglant depuis la reprise de Mossoul aux djihadistes début juillet, avec un bilan provisoire d'au moins 52 morts. Une double attaque à l'arme automatique dans un restaurant, puis à la voiture piégée aux abords d'un point de contrôle des forces de sécurité, s'est produite à Nassiriya, à 300 km au sud de Bagdad, assaut revendiqué par le groupe État islamique. Et enfin, le Yémen, le chef des rebelles, menace de tirer des missiles sur les Émirats arabes unis et de lancer des attaques navales contre des sites et pétroliers saoudiens. Les Émirats participent à une coalition des pays arabes commandés par l'Arabie saoudite et qui aident militairement le pouvoir du président Abd Rabbo Mansour Hadi face aux rebelles. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. La Minute Éco avec Dilly Dico.
Le Fonds monétaire international, FMI, a réaffirmé sa volonté de soutenir les autorités du Burkina Faso au plan économique. L'AFP rapporte des discussions en cours pour un accord en vue d'ouvrir une nouvelle ligne de crédit. Mitsuhiro Furusawa, directeur général adjoint du FMI, a souligné que l'objectif de l'institution est d'accompagner le Burkina dans la réalisation d'une croissance rapide, durable et inclusive. Selon le responsable, le nouvel accord pourrait venir en appui au Programme national de développement économique et social du Burkina Faso. Au Ghana, le gouvernement va investir 100 millions de dollars au cours des 4 prochaines années pour former les jeunes à l'entrepreneuriat. Selon l'agence Ecofin, le ministre du Développement des entreprises, Mohamed Awal, a indiqué que l'exécutif s'active à orienter l'investissement public vers le secteur privé afin de le développer et créer des opportunités pour la jeunesse. Au Cameroun, la douane révèle l'existence de 6000 importateurs inconnus des services d'impôts. Il s'agit d'importateurs qui dédouanent régulièrement leurs marchandises et ne payent pas d'impôts. Selon Ecofin, la douane camerounaise a dressé une liste qui lui a permis de sommer ses opérateurs de se mettre rapidement en règle auprès de l'administration fiscale. Cette découverte est l'une des premières retombées de la convention de partage des informations entre la douane et l'administration fiscale camerounaise.
Un peu sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Les quarts de finale de l'Afro-Basket masculin 2017, ce jeudi à Tunis.
Eh oui, le choc de l'Afrique du Nord entre le Maroc et l'Égypte a tourné à l'avantage des Marocains, 66-62. Cette qualification dans le dernier carré de la compétition est une première pour le Maroc depuis, tenez-vous bien, 1980. Le Nigeria, tenant du titre, a dominé le Cameroun, 106-91, sans surprise. Les explications sur place d'Amdinsi pour VOA Afrique.
Une victoire aux allures de démonstration de force pour les champions en titre qui ont allié spectacle et efficacité en dépassant la barre symbolique des 100 points, amenée par un excellent Diogou, le Nigeria a dominé cette rencontre de bout en bout en remportant tous les cartons, 25 à 18 puis 52 à 43 à la pause, soit 9 points d'écart. Mais les Dai Tigers ont accéléré la cadence lors du troisième axe où ils ont viré avec 15 longueurs, 75 à 30. Le quatrième et dernier carton ne sera qu'une formalité pour les Nigériens qui vont s'imposer avec la bannière grâce à un Diogou qui a encore claqué 28 points du côté du Cameroun. Bournois Mala, auteur de 32 points, a réalisé une excellente performance, mais comme le dit l'adage, une hirondelle ne fait pas le printemps. Amédine-Si, Tunis, Véo-Afrique.
Autre quart de finale ce soir, la Tunisie opposée au Léopard de la RDC, puis le Sénégal tentera de se qualifier pour les demi-finales devant un ogre du continent, l'Angola.
En football, place à la Ligue Europa ce jeudi.
À suivre Arsenal-Cologne, le Milan AC chez l'Austria de Vienne, Villarreal face à Astana, et puis le Başakşehir, le club d'Emmanuel Adebayor contre le Ludogorets, enfin Lyon contre Limassol.
Et enfin, Isco prolonge avec le Real.
Oui, le meneur de jeu espagnol du Real Madrid, Francisco Alarco, dit Isco, a signé pour 4 nouvelles saisons avec le club madrilène. Depuis 4 ans avec les Merengues, Isco a remporté 3 Ligues des Champions, 2 Championnats du Monde des clubs, 3 Super Coupes d'Europe, 1 Championnat d'Espagne, 1 Coupe du Roi, ça donne le tournis, et enfin une Super Coupe d'Espagne.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec, deuxième partie d'émission Les dossiers du jour. Cap sur le Tchad. La France, par l'entremise du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a appelé lundi le président Déby à publier le calendrier pour les élections législatives qu'il a reportées sine die. Les réactions de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile dans ce reportage d'André Kodmajingar.
Quand j'ai dit que nous ne pouvons pas organiser des élections en 2017, même voire 2018, c'est pour ne pas mentir.
C'est Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, face à la presse nationale et internationale en février 2017. Il a demandé aux Tchadiens de prier Dieu pour que le cours du baril remonte pour permettre l'organisation des élections législatives au Tchad. Cette interpellation de France intervient au lendemain de la table ronde de Paris, au cours de laquelle les bailleurs de fonds ont annoncé leur intention de financer le plan national de développement à plus de 20 000 milliards de francs CFA. Idriss Déby Itno acceptera-t-il ce qui s'apparente à une injonction de la France? Réaction du coordonnateur de la majorité présidentielle, Cosma Di Merci.
Les réformes institutionnelles en étude, il se pourrait aussi que ces réformes-là dictent les conditions d'organisation de ces élections législatives. Donc je ne vois pas que ce soit un pays ami qui peut imposer à un autre pays la date d'organisation d'une élection quelconque.
Dans une lettre adressée au président français au lendemain de cette annonce, l'opposant historique du président Déby, Yurongar Ngarledji, a déclaré que l'élection législative au Tchad n'est pas une fin en soi.
Comme il a les moyens de se faire écouter et entendre par Idriss Déby, il faut qu'on réforme les institutions chargées d'organiser des fraudes telles que la CENI, le Conseil constitutionnel, la Cour suprême et surtout les autorités administratives et militaires qui bourrent les urnes. Sans ça, c'est pas la peine.
Pour le président du Rassemblement patriotique du Renouveau, Mahamat Bar Béchir, membre de la coordination du FONAC, Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement. Si la France veut aider les Tchadiens, elle doit d'abord soutenir la proposition de l'opposition, celle d'organiser un dialogue inclusif.
Avant qu'on organise les élections, nous avons une condition, c'est la tenue d'un dialogue national inclusif. Est-ce que l'opposition va encore aller dans cette mascarade électorale pour encore donner une majorité mécanique au régime en place? Je pense que non.
La société civile tchadienne se dit surprise de cette interpellation. Banadi Boguel Purus est le président du collectif des associations de défense des droits de l'homme.
Il y a eu la table ronde qui avait été organisée et en même temps, il y a cette interpellation. Est-ce que c'est une façon de conditionner le versement des promesses de fonds qui ont été faites? Est-ce que ce n'est pas un agenda caché de la France qui essaie de s'impliquer, d'interférer dans le fonctionnement des institutions tchadiennes?
André Kodmajingar Ndiamena, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, plein feu sur la crise politique au Togo, marquée par des manifestations de l'opposition et des contre-manifestations du parti au pouvoir. Les opposants dénoncent le projet de loi du gouvernement sur la modification de la constitution et réclament le départ du président Faure Gnassingbé. Que prévoit ce projet de révision constitutionnelle? Les dirigeants, tant de l'opposition que du gouvernement, doivent-ils privilégier le dialogue pour calmer les esprits? Quelle solution voyez-vous pour régler la crise? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Le Gabon envisage une loi d'amnistie pour des responsables des violences post-électorales de 2016. C'est ce qu'a déclaré hier le Premier ministre Emmanuel Isossé Gondé. L'annonce de la réélection d'Ali Bongo le 31 août 2016, souvenez-vous, avait provoqué des violences ayant abouti à des centaines d'interpellations. L'Assemblée nationale avait été incendiée et le QG de Jean Ping pris d'assaut par les forces de sécurité. Pour une réaction, Nathalie Barge a joint à Libreville la présidente du comité d'organisation du Forum des indignés, Blanche Simoni-Aubeg.
Le Parlement qui est supposé voter cette loi est illégitime parce que son mandat s'est achevé il y a plusieurs mois, les élections ne se sont pas tenues. Ensuite, pour le cas de l'amnistie, à proprement parler, quand on parle de violence électorale, on pense essentiellement au gouvernement qui a envoyé une armée tuer des Gabonais. Ça veut dire que les violences que le gouvernement a orchestrées vont purement et simplement être annulées. Les auteurs vont être amnistiés. Donc pour nous, c'est une auto-amnistie. On le prend comme tel.
Combien d'opposants sont encore incarcérés au Gabon ?
Plusieurs opposants. Et encore dernièrement, il y a une centaine depuis le 25 août où on a tenté de faire des marches pacifiques. Plusieurs jeunes, on parle d'une centaine, arrêtés. Il y a, en une semaine, ils ont arrêté deux responsables de l'opposition, M. Massavala et M. Oyougou, pour des faits non avérés.
Alors, est-ce que cette décision d'amnistie ne serait pas finalement une sorte d'initiative pour contourner l'initiative de la communauté internationale, sachant qu'il y a enquête de la CPI et notamment l'enquête française?
Oui, on le pense. Vous savez, ce gouvernement a toujours fonctionné sur la base de la communication. Les faits réels n'existent pas. C'est un coup d'annonce et on n'est même pas sûr qu'ils iront au bout. Et s'ils vont jusqu'au bout de la mise en place de cette amnistie-là, que ça profite à l'opposition ou aux citoyens gabonais. La communauté internationale qui jusque-là joue un bon rôle aux côtés du peuple gabonais, vraiment, c'est le seul appui solide et concret qu'on peut avoir pour amorcer une alternance démocratique au Gabon.
En ce qui concerne l'opposant Pascal Oyougou, inculpé mardi, qu'en est-il des dires du procureur, notamment sur cette conversation téléphonique dans laquelle il aurait planifié la déstabilisation du pays?
D'abord, pour les juristes, c'est complètement illégal de transcrire une audition dans un journal deux jours après qu'on ait arrêté une personne. Et on sait aussi, vous vous souviendrez, que le gouvernement est familier de ce genre de montage. Un coup, c'est les opposants qui ont commandé les armes, on a trouvé une cache d'armes à tel endroit. C'est tout le temps, on connaît le scénario et ça ne surprend personne, ces accusations-là. Et les Gabonais savent exactement de quoi il en retourne.
Blanche Simoni-Aubeg, présidente du comité d'organisation du Forum des indignés à Libreville.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Bénin, contrairement aux années précédentes, c'est le 18 septembre qu'aura lieu la rentrée scolaire que les parents espèrent apaiser. Mais des partenaires sociaux prédisent une année tumultueuse si le gouvernement du président Patrice Talon ne négocie pas avec les responsables syndicaux. De Cotonou, les précisions de notre correspondante Ginette Fleuradondé.
Encore quelques jours et l'école béninoise ouvrira ses portes pour le bonheur des apprenants qui, pour la plupart, sont impatients d'affronter les cours. Certains pensent tout de même n'avoir pas eu suffisamment de temps pour se remettre de l'année scolaire écoulée.
Je vois que le temps des vacances de cette année, c'est insuffisant pour nous les élèves.
Je pense que c'est une bonne chose. Comme ça, on pourrait vite commencer, vite finir l'année.
C'est pas mal quand même que la rentrée commence. Pas eu avant mon bac. C'est trop proche, mais...
Je suis prête si on laisse le temps encore passer avec les amusements et les divertissements, on risque de tout oublier.
Pour une bonne rentrée scolaire apaisée, il faut des enseignants satisfaits ayant le cœur à l'ouvrage. Et même si le gouvernement a pris des décisions fortes, elles ne satisfont pas les responsables syndicaux qui pensent que le gouvernement use de ruses et de manipulations. Pour Noël Chadari de la COSI, la rentrée scolaire risque d'être violemment perturbée si l'État ne joue pas son rôle.
S'il ne règle pas nos problèmes, l'année scolaire sera perturbée et très bien perturbée. Ça, je peux vous le garantir. Donc pour ça, il faut que le gouvernement négocie au lieu de faire de la com comme ils sont en train de faire là. Commencez pas à négocier avec les centrales syndicales et regardez en face les problèmes.
L'ancien secrétaire général de la CSTB pense que la balle est dans le camp du gouvernement qui doit se départir des effets d'annonce pour de réelles actions sur le terrain des réformes pour lesquelles il est attendu pour une éducation de qualité et un mieux-être des acteurs du secteur qui vivent dans la misère et la précarité.
Il faut que Talon sache que lorsqu'il est arrivé, il faut qu'il pose les problèmes sérieux de l'école. Et pour régler les problèmes de l'école, c'est avec les acteurs de l'école pour une nouvelle réforme populaire et non des réformes qui amènent l'enseignement de l'anglais à bracadabran qui embrouille le système.
Pour le moment, les écoles sont désertes et attendent d'accueillir les apprenants le 18 septembre. Mais on ne sent aucunement les préparatifs sur le terrain, sur les stands de vente de fournitures. La baisse du pouvoir d'achat serait pointée du doigt par certains vendeurs.
On est là, bon, pour le moment, ce n'est pas encore la grande affluence. Et comme les Béninois, on les connaît, bon, ils attendent toujours les derniers moments. Non, apparemment, les articles ne sont pas chers. Les Béninois le trouvent cher compte tenu du pouvoir d'achat qui a pris un coup ces derniers moments.
Pour ce parent d'élèves venu juste s'informer des prix des fournitures scolaires, la grande affluence se fera sentir à la veille ou au cours des premières semaines de la rentrée. C'est une stratégie qui espère voir les prix baisser à cause de la mévente.
Je ne sais pas pourquoi, mais certainement beaucoup le font aussi puisque c'est seulement au dernier moment qu'il a d'affluence dans les centres. Voilà, je fais partie de ceux-là qui prennent quoi pour acheter les fournitures.
Le gouvernement, quant à lui, mesure la portée d'une rentrée sans mécontentement et le ministre de l'Enseignement secondaire a su ici de la volonté manifeste du chef de l'État à prendre en compte et à satisfaire au mieux toutes les revendications des travailleurs.
Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que la rentrée ait lieu. L'autre paire de manches, c'est les discussions avec nos amis les syndicalistes. Donc tout est planifié déjà pour qu'il y ait une rentrée apaisée.
Beaucoup attendent le gouvernement sur le plan des infrastructures puisque de nombreuses écoles dans la capitale seront fermées les premières semaines de la rentrée parce que inondées à bloc. De Cotonou, s'il n'est plus attendu pour VO Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VO Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Donald Trump en Floride pour constater les dégâts causés par l'ouragan Irma. Plus de 2,6 millions d'habitants étaient encore privés de courant 4 jours après le passage de la tempête. Timothée Donangmaï a joint Marc Elias, un instructeur de police de la ville.
On met main dans la main dans les différents quartiers. On voit les gens que d'habitude, lorsqu'on sort du travail, c'est possible que même la maison qui est à côté de toi, on ne connaît pas qui vit là, parce que la vie là-bas, c'est un peu... Mais on a le temps de parler avec l'un et l'autre et d'aider avec l'un et l'autre. Mais c'est bien dommage, ce sont des événements comme ça qu'on voit l'humanité et l'amour de l'être humain, l'amour que Dieu nous a créé à l'intérieur de l'un et l'autre. Parce qu'on met les mains ensemble, c'est pas une question de noir, blanc ou espagnol. Ce sont tous, nous tous, ont vécu quelque chose de catastrophique. Donc, on se met ensemble juste pour recommencer notre vie.
Quelle est l'ampleur des dégâts à Miami?
Oui, il y en a beaucoup, surtout avec les arbres, il y a les routes, il y a les maisons. Ensuite, à Key West, Key Largo. À Miami, pas aussi fort qu'à Key West. Mais on a des dégâts. Par exemple, pour moi, je dois mettre une nouvelle toiture. Par exemple, c'est les zones qui sont près de l'océan. Ils font face à l'inondation. Moi, non, parce que je n'habite pas trop près de l'océan, mais quand même, toiture de la maison et tout. Parce que même avec un arbre qui tombe sur la toiture, donc là, on doit faire le nettoyage et trouver une compagnie. Mais je dis prudence à des gens parce qu'il y a des compagnies et j'ai vécu ça comme chef de la police. C'est vraiment terrible. On doit vraiment, vraiment faire attention.
Quels sont les autres problèmes auxquels sont confrontés les habitants de la région?
Actuellement, on avait commencé dès lundi à peut-être 1 million de gens sans électricité. Maintenant, on est à moitié. Donc, c'est toujours là, l'électricité, de l'eau. Il y a les marquettes qui sont ouvertes maintenant. Donc, ça nous aide un peu. Comme je dis que peu à peu, ça, on fait le pas ensemble.
Et que disent les compagnies d'assurance?
Ouh là là, ça c'est vraiment une blague. Parce que je me suis resté hier jusqu'à 2h30 de temps. Et finalement, lorsque le type est venu au téléphone, il m'a demandé pour les documents. Je lui ai dit, mais écoute, je vous ai donné mon nom social, tout ce que vous voulez. Ça devait être dans l'ordinateur. Donc, ça m'a pris une autre, quoi, 2 heures de temps encore. Même avec ça, il me dit que ça va prendre 3 semaines avant que quelqu'un arrive là pour faire les ajustages, pour me dire, bon, voici combien qu'ils vont me donner. C'est chaque mois, on paie l'assurance, mais lorsque c'est à eux maintenant pour nous aider, c'est vraiment... Enfin, c'est la vie.
Marc Elias, instructeur de police à Miami. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Joselle Morissin. Présentation, Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan. À Brazzaville, sur 101.9 FM. À Lomé, 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.